VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 8 août 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Pour commencer, les titres. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken entame par l'Afrique du Sud et Soweto une tournée africaine incluant aussi la RDC et le Rwanda. Le chef de la junte au pouvoir au Tchad accepte à Doha de lancer les pourparlers de paix avec l'opposition. Au Mali, 5 policiers ont été tués dans le sud-ouest alors que l'armée annonçait une autre attaque djihadiste dans le nord. Trêve précaire entre Israël et le djihad islamique à Gaza après 3 jours d'hostilité qui ont coûté la vie à 44 Palestiniens. Ici à Washington, victoire pour le président Joe Biden. Le Sénat adopte son vaste plan pour le climat et la santé. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé hier en Afrique du Sud, première étape de sa tournée africaine pour contrecarrer, dit-on, l'influence diplomatique russe. Cette visite intervient peu après la tournée africaine de son homologue russe Sergueï Lavrov, qui s'est rendu en juillet au Congo-Brazzaville, en Égypte, en Éthiopie et en Ouganda. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ce lundi, Antony Blinken doit s'entretenir avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor. Il va faire des annonces concernant la nouvelle stratégie africaine du gouvernement américain. C'est ce qu'affirme Pretoria dans un communiqué qui ajoute que les discussions aborderont les développements récents et en cours concernant la situation géopolitique mondiale. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en février, l'Afrique du Sud a adopté une position neutre et refusé de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou. Dimanche, le secrétaire d'État américain s'est rendu au mémorial Hector Peterson à Soweto, près de Johannesburg. Il a visité le musée bâti en hommage aux étudiants tués dans une manifestation de lycéens en 1976 lors d'une répression policière. M. Blinken était accompagné par Antoinette Sitol, la sœur d'Hector Peterson, qui à 12 ans fut le premier, le 16 juin 1976, des plus de 170 manifestants tués à Soweto. Après Johannesburg, Blinken doit se rendre en République démocratique du Congo, puis au Rwanda.
En République démocratique du Congo, pendant ce temps, 15 civils, un soldat et un rebelle ont été tués dans des attaques du groupe rebelle djihadiste ADF contre des villages de l'Est, selon un nouveau bilan donné dimanche par les autorités locales. Près de 40 civils au total ont été tués vendredi et samedi en Ituri par des milices ou groupes djihadistes. Au Mali, 5 policiers ont été tués dimanche dans une attaque dans le sud-ouest et 3 autres sont portés disparus selon la police. Et l'armée a annoncé une autre attaque djihadiste dans le nord. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La première attaque a eu lieu dans la matinée de dimanche à Sona, dans la région de Koutiala, près de la frontière avec le Burkina Faso. D'après un communiqué de la police nationale, des policiers qui rentraient de leur service au poste frontière de Sona ont heurté un engin explosif, puis essuyé des tirs nourris d'assaillants non encore identifiés. Par ailleurs, l'armée malienne a annoncé dimanche sur les réseaux sociaux avoir repoussé dans la région de Gao, dans le nord-est, une attaque lancée dans l'après-midi par des rebelles djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahara. Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire survenue après le déclenchement d'insurrections indépendantistes et djihadistes qui ont tué des milliers de personnes et provoqué le déplacement de centaines de milliers d'autres. Il est aussi en proie à une crise politique depuis que des officiers militaires en colère face à l'incapacité du gouvernement à juguler ces violences ont pris le pouvoir par la force en août 2020.
Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé ce lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles, accord destiné à lancer un dialogue national le 20 août à N'Djamena, ont constaté des journalistes de l'AFP. Mais le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, le FACT, l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas signé l'accord. Malgré les espoirs des médiateurs à Doha, qui ont cherché à le convaincre jusqu'à la dernière minute. Les autorités maritimes tunisiennes ont secouru 255 migrants au cours de 17 tentatives d'émigration vers l'Italie dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé dimanche la garde nationale dans un communiqué. 170 de ces migrants sont d'Afrique subsaharienne et le reste de Tunisie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe armé palestinien Djihad islamique a annoncé avoir accepté un accord de trêve avec Israël en 3 jours d'hostilité. Des raids aériens israéliens sur la bande de Gaza ont tué 44 Palestiniens, dont des enfants. Le point avec John Linden.
À l'origine d'une médiation entre les deux protagonistes, l'Égypte a appelé à une trêve à partir d'hier 23h30 heure locale, d'après une source de sécurité égyptienne. Le djihad islamique a confirmé qu'il cesserait les hostilités, mais qu'il se réservait le droit de répondre à toute nouvelle agression israélienne. Le bureau du premier ministre israélien, Yair Lapid, a confirmé un cessez-le-feu. Il a cependant prévenu que si le cessez-le-feu est violé, l'État d'Israël se réserve le droit de répondre fermement. Avant cette annonce, l'organisation islamiste armée a lancé plusieurs roquettes en direction d'Israël et de Jérusalem qui ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien, selon l'armée israélienne. Cette dernière a présenté son opération enclenchée depuis vendredi comme une attaque préventive contre le djihad islamique. Israël affirme que les principaux chefs militaires à Gaza, Taïsir al-Jabari et Khaled Mansour, ont été tués, de même que plusieurs combattants du djihad islamique. La mort des chefs militaires a été confirmée par le groupe considéré comme terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne.
Le site de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été bombardé pour la deuxième fois en un peu plus de 24 heures ce week-end, tandis que 4 nouveaux cargos chargés de céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, ont quitté dimanche des ports ukrainiens. Comme après les précédents bombardements de vendredi sur ces installations situées dans le sud de l'Ukraine et tombées depuis mars aux mains des soldats russes, les deux belligérants se sont mutuellement accusés dimanche de les avoir attaqués. L'armée chinoise a annoncé ce lundi, malgré les appels internationaux, la poursuite d'exercices militaires près de Taïwan, toujours pour protester contre la visite sur l'île revendiquée par Pékin de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi. La Chine a débuté jeudi, au lendemain du départ de Taipei de Mme Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, des manœuvres à tir réel dans 6 larges zones tout autour de Taïwan. Elle devait s'achever, ces manœuvres, dimanche à midi, soit 4 heures GMT. Après 18 mois de négociations, le Sénat américain a finalement adopté hier le grand plan du président Joe Biden sur le climat et la santé. Par leur seule voix, les démocrates ont approuvé ce plan de plus de 430 milliards de dollars d'investissement. Le point avec Nani Talani.
Cette enveloppe comprend le plus grand investissement jamais engagé aux États-Unis pour le climat. 370 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Avec cette réforme, un Américain recevra jusqu'à 7 500 dollars en crédit d'impôt pour l'achat d'une voiture électrique. L'installation de panneaux solaires sur son toit sera prise en charge à 30%. Le texte prévoit 64 milliards de dollars d'investissement dans la santé et la baisse progressive du prix de certains médicaments. Plusieurs milliards de dollars de crédits d'impôt seront proposés aux industries les plus polluantes pour les assister dans leur transition énergétique. Le projet de loi entend aussi réduire le déficit public avec un nouvel impôt minimal de 15% pour toutes les sociétés dont les bénéfices dépassent le milliard de dollars. La réforme doit aussi permettre de renforcer la résilience des forêts face aux incendies monstres qui ravagent l'Ouest américain. ce projet de loi prend la route de la Chambre des représentants à majorité démocrate pour un vote final la semaine prochaine avant d'être promulgué par Joe Biden.
Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, a prêté serment dimanche devant des centaines de milliers de personnes à Bogota, lançant un appel aux groupes armés pour signer la paix, ainsi qu'à mettre fin à la guerre antidrogue tenue en échec. La Minute Éco, Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, Serengeti Energy et le réseau de conseils en financement privé ont lancé à Abidjan le programme incubateur Umoja qui vise à soutenir les projets dans le domaine des énergies renouvelables. Selon le cabinet de conseil, le programme permettra de favoriser une augmentation du taux de pénétration d'électricité dans le pays. Au Sénégal, le Fonds d'autonomisation économique des femmes a signé à Thiès un accord d'investissement avec l'entreprise de torréfaction et de production de café moulu en sachet Dialibatou Invest d'un montant de 250 millions de francs CFA. Une nouvelle unité de production sera construite dans la zone industrielle de la ville. En Tunisie, selon la Banque centrale, les recettes touristiques cumulées atteignaient plus de 565 millions de dollars au 20 juillet contre 340 millions à la même époque l'an dernier, soit une hausse de 66% en glissement annuel. Le ministère du Tourisme indique que les arrivées de touristes se sont établies à 2,63 millions, une hausse de plus de 100% par rapport à juillet 2021.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Du football de sable ce matin avec les éliminatoires de la CAN 2022 de Beach Soccer.
Oui, et en un tour unique, on connaît les qualifiés pour la phase finale de la compétition prévue du 21 au 30 octobre prochain du côté de Mozambique. Et sans surprise, le tenant du titre, le Sénégal, y sera après avoir battu deux fois le Cameroun. Ça passe aussi pour le Maroc qui a écarté la Côte d'Ivoire, tout comme l'Égypte qui a renversé le Ghana 7-5 après la défaite 6-5 du match aller. Qualification également de l'Ouganda aux dépens des Comores, du Malawi devant la Tanzanie et de Madagascar face aux Seychelles.
De la boxe à présent, la Fédération béninoise de la discipline a un nouveau président.
Tout à fait. Et il s'agit de Pierre Rinvy, intérimaire. Depuis bientôt un an, il a été élu pour le compte de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue à Boïcon. Au thème du vote, le président réformateur a rassemblé 21 voix contre 6 pour son challenger Jean-Marc Medetadji. Pierre Léonard Rinvy succède ainsi à Germain Merentor et a désormais carte blanche pour conduire les destinées de la boxe béninoise pour les 4 années à venir. Et déjà, le nouveau président élu mesure l'immensité de la tâche à accomplir. On l'écoute.
Et les efforts à faire, c'est déjà au plus vite la professionnalisation de la boxe auquel nous allons faire face le plus rapidement possible. Après cela, revoir le test. C'est nécessaire, c'est ultime. Et il faut que nous y arrivions le plus rapidement possible. La professionnalisation s'impose à nous. Et c'est le gouvernement, à travers sa politique, qui dit « Aucune société n'ira à vous si vous ne devenez pas professionnel ».
Dans le reste de l'actualité sportive, du handball avec le mondial masculin des moins de 18 ans.
Une compétition qui se dispute actuellement en Macédoine du Nord et l'Égypte, seule équipe africaine qualifiée pour le second tour, a été éliminée en quart de finale, battue par la Hongrie 28-22. Renversé en revanche en Coupe du Président, le Sénégal aussi n'a pu rien faire devant la Slovaquie qui l'a battu 41 à 25. Par contre, la Guinée est sortie vainqueur du duel 100% africain face à l'Algérie, score 41-17.
En athlétisme, le premier meeting de la Ligue de Diamants qui a eu lieu en Pologne n'a pas trop réussi aux Africains.
Oui, d'ailleurs la seule performance vient de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou qui termine troisième sur l'épreuve des 100 mètres. Elle a réalisé un temps de 11 secondes derrière l'intouchable Shelly Ann Fraser-Pryce avec un chrono canon 10 secondes 66 centièmes. La Jamaïcaine a donc réalisé la meilleure performance mondiale de la saison. Parmi les autres résultats des Africains, notons la cinquième place du récent médaillé d'argent en triple saut au championnat du monde, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango avec un bond mesuré à 16,42 m.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé dimanche une tournée en Afrique. C'est par l'Afrique du Sud qu'il a commencé sa visite sur le continent. Monsieur Blinken se rendra ensuite en RDC et enfin au Rwanda. À Kinshasa, cette visite suscite plusieurs attentes au sein de la classe politique congolaise et de la population. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Alex Katikatai.
La visite de M. Blinken en RDC intervient dans un contexte de tension entre la RDC et le Rwanda. Dans un rapport confidentiel consulté par les médias, des experts de l'ONU ont affirmé que les troupes rwandaises mènent des opérations militaires en RDC en soutien aux rebelles du M23. Cette question sécuritaire sera à l'ordre du jour des échanges entre M. Blinken et les autorités congolaises. Le parti au pouvoir espère que cette visite fera bouger les lignes dans l'est du pays. Jacques Chabani, de l'UDPS, attend de M. Blinken un message fort contre le Rwanda.
Vu le rôle que les États-Unis jouent, nous espérons que, à travers cette visite et ces nouvelles informations, ensemble, nous aiderons à ce que la communauté internationale aille au-delà de la dénonciation, qu'il puisse être intimé de la façon la plus claire possible à M. Paul Kagame et à son gouvernement le retrait total et immédiat de toutes les troupes rwandaises, leur matériel et de sa milice, le M23, qui a traversé la frontière en provenance du Rwanda pour venir en agression au Congo, et cela a causé plusieurs morts.
C'est aussi la même attente du côté de l'opposition. L'opposant et candidat annoncé à la présidentielle de 2023, Frank Diongo, demande aux États-Unis d'imposer au Rwanda le retrait de ses troupes de la RDC et la fin de la guerre.
Ce que nous attendons des États-Unis, c'est l'implication directe et sincère des États-Unis pour mettre un terme au cycle de violences qui se répète à l'est du pays. Nous, dans notre mouvement MLP, notre vision, notre approche, c'est que l'Amérique puisse s'impliquer sincèrement et directement, c'est-à-dire dire au Rwanda de quitter et chercher à ce que cette situation ne se répète plus.
Anthony Blinken évoquera également la question du processus électoral. Sur ces points, le candidat à la présidentielle, Frank Diongo, espère que M. Blinken demandera au régime Tshisekedi d'organiser des élections crédibles et dans le délai constitutionnel.
Les élections de 2011 ont été contestées. Les élections de 2018 également ont été contestées. Que les Américains s'impliquent de sorte que les élections de 2023 soient des élections dont le résultat doit être accepté. Alors pour que le résultat soit accepté, il faudra alors que les processus électoraux dans toutes ces phases, préélectorales, électorales et post-électorales, que ce soit un processus inclusif, régulier, honnête, sincère, crédible et équitable.
Tenancier d'une échoppe dans le célèbre quartier Matongé de Kinshasa, Léonard estime qu'évoquer la question des élections par M. Blinken serait une ingérence dans la politique interne de la RDC.
Bon, concernant le processus électoral, moi je dirais toujours que c'est une ingérence, puisque nous sommes un pays démocratique souverain. Nous sommes capables de mobiliser les fonds propres pour organiser les élections. Quand ils organisent les leurs chez eux, il n'y a personne, il n'y a aucun Africain qui s'ingère dans leur processus électoral. Mais pourquoi le ferait-il juste puisque c'est le Congo, puisque c'est l'Afrique?
Plusieurs mouvements citoyens et certaines organisations religieuses ont prévu un sit-in devant l'ambassade des États-Unis pour faire pression sur l'Amérique et demander son implication dans la résolution de la situation dans l'est du pays. Anthony Blinken se rendra au Rwanda après Kinshasa. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, le dialogue national inclusif est annoncé pour ce 20 août. Selon le quota accordé aux différents groupes participant à cette rencontre, la société civile sera représentée à 21%. Pour les acteurs concernés, cette représentation est très faible. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Sur plus de 1300 participants, 287 places sont réservées à la société civile, y compris les organisations de jeunes, de femmes, des artistes, des médias ainsi que des autorités religieuses.
Nous attendons de ce dialogue un changement fondamental pour permettre aux Tchadiens de s'exprimer, un changement dans la situation des conditions de vie, pour que les Tchadiens se sentent aussi chez eux. Mais moi, personnellement, je me rends compte que nous sommes en train d'aller droit au mur.
Céline Narmadi, présidente de l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad et membre de la coordination de la société civile, elle estime que le quota accordé aux différents groupes n'est pas paritaire pour un débat équilibré. Toutefois, elle souhaite que la question de la forme de l'État soit au cœur des discussions.
L'État unitaire, pendant 60 ans, n'a rien donné de positif dans la vie des Tchadiens. Est-ce qu'il faut fédérer? Est-ce qu'il faut diviser? Comment faire pour que les Tchadiens puissent se sentir impliqués dans la gestion de leur pays? Il faut qu'on arrive à ça. Ce n'est pas tabou.
Le coordonnateur des associations de la société civile et de la défense des droits de l'homme, Mahamat Digadibaï, est membre du comité d'organisation de ce dialogue, demande à ses compagnons d'être unis et solidaires pour plaider le sort de la population. Il confirme au micro de VOA Afrique que la question de la forme de l'État sera inscrite à l'ordre du jour conformément aux différents rapports du Koudni. Toutefois, il se dit favorable à la forme actuelle de l'État pour plusieurs raisons.
Il y a beaucoup de risques dans la conception même du système fédéral. Aujourd'hui, il y a le communautarisme qui prend de l'ascension et il y a des risques forts de la remise en cause de l'unité nationale et également de la division de notre pays. Donc, ça, c'est ma vision. Mais comme le débat va être ouvert, on verra quelle est la forme de l'État qui sera arrêtée au niveau du dialogue national inclusif.
Pour le coordonnateur des actions citoyennes Wakitama, Maître Max Loalngar, il ne sert à rien de participer à une rencontre où la voix du peuple ne sera pas entendue.
Il y en a qui disent que la chaise vide ne paye pas tout. Non! Mais si tu dois contribuer à créer un système qui t'opprime, autant refuser et combattre ce système là-bas que vaille par les moyens que tu as en ta possession. Nous avions dit que si les conditions de logique et d'intelligence, si nos vis-à-vis ne l'acceptent pas, bon, ils n'ont qu'à organiser leur dialogue. Nous allons rester dans la rue pour les combattre. Selon les instruments internationaux, c'est un devoir pour chaque peuple. Quand il est face à l'arbitraire et à l'injustice, chaque peuple a le droit de résister. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme que le Tchad a souscrit.
Dans la perspective de la tenue de ce dialogue, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, a fait le déplacement à Doha au Qatar le week-end dernier pour aider à accélérer la signature de l'accord ce lundi entre le gouvernement et les politico-militaires pour permettre à ces derniers de participer à cette grand-messe le 20 août prochain. André Koduma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Burundi, avec la pénurie de carburant, il devient difficile aux habitants de se déplacer dans Bujumbura. Les marchandages sur les prix des transports en bus ou en taxi deviennent chose courante. Se diriger d'un quartier à l'autre ou vers l'intérieur du pays est devenu un casse-tête selon notre correspondant sur place. Le président Évariste Ndayishimiye promet que d'ici un mois, le problème sera résolu avec une centaine de bus attendus incessamment. Un reportage de Christophe Kourounziza.
À Bujumbura, de longues files d'attente sont observées nuit et jour devant les stations d'essence. Les voitures attendent pendant de longues heures, parfois même des jours, pour s'approvisionner en carburant. Dans la ville, il est difficile de trouver des transports publics. Certains passagers cherchent des taxis qui sont devenus rares et très chers. Jean Dereimana travaille pour son propre compte dans le commerce. Il y est aujourd'hui difficile d'exercer son travail au quotidien.
Personnellement, je suis privé. Je gagne ma vie et celle de ma famille, tout en déplaçant mes articles d'un endroit à un autre. Ce qui m'est difficile en ce moment-ci, car il y a carence de carburant. Dernièrement, je voulais me rendre à l'intérieur du pays. Là où je payais d'habitude 8000 francs, on m'a taxé 25000 francs. C'est difficile. Je ne vois pas comment je vais honorer mes engagements dans ces conditions-ci. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide au plus vite possible, disponibiliser du carburant et à un prix raisonnable pour le bien du peuple.
Beaucoup de Burundais vivent avec moins d'un dollar américain par jour. Dépenser matin et soir 30 000 francs en bout, soit l'équivalent de 5 dollars pour se déplacer, complique la vie de cette maman Jeanne Sabimana, 45 ans, et mère de 4 enfants.
Pour moi, il m'est difficile de faire mes activités au jour le jour. J'ai 4 enfants qui sont en vacances. Je dois les déplacer en ville pour suivre des cours le matin. Ce sont des cours de rattrapage. Mais comme il n'y a pas de bus disponible où je paie 4 400 francs pour les 4, je dois prendre un taxi le matin et l'après-midi. Quand ils reviennent à la maison, je paie 30 000 francs bruts. C'est vraiment compliqué pour moi car je ne gagne pas suffisamment d'argent. Et si le gouvernement pouvait disponibiliser ces bus, ce serait mieux pour tout le monde.
Les conducteurs de bus et des taxis profitent de cette situation, surtout la nuit, pour augmenter les prix qui ont été revus à la hausse dernièrement par la ministre du Commerce. Les conducteurs ont expliqué à VOA Afrique que les prix augmentent à cause du manque de carburant qui est vendu très cher au marché noir. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a promis lors d'une séance de moralisation dans le nord du Burundi que cette question trouvera une solution d'ici un mois. Il a le même jour condamné certaines sociétés qui ne rendent pas disponibles les devises pour l'importation du carburant. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a appelé au calme vendredi après la chasse aux mineurs clandestins dans les anciennes mines d'or de Johannesburg. Nous ne pouvons pas tolérer la justice de foule, a-t-il lancé aux habitants de Kagiso, un township de Johannesburg. Ceux-ci accusent les mineurs clandestins de commettre des viols et des meurtres. La situation est très tendue depuis le viol de 8 femmes lors du tournage d'un clip musical sur un site minier vendredi dernier. Notre correspondante en Afrique du Sud, Valérie Hirsch, s'est rendue sur place.
La police est déployée en force pour calmer la situation à Kagiso où des habitants ont fait la chasse aux mineurs clandestins qu'on appelle ici les Amazama. Certains ont été battus, d'autres dénudés. Leborhang Xalaba a capturé 4 mineurs clandestins avec son groupe.
All of them, they are from Mozambique. We found them inside the illegal mine. Those guys, the illegal immigrants, the guys who were there, yeah, waiting for us. When they saw us coming with the guys, they came running towards us to beat the guys. It's for us as a community to stand together, not to trust on the police. Our government doesn't listen to us.
À quelques kilomètres de Kagiso, 8 femmes qui participaient au tournage d'un clip musical sur un site minier ont été violées vendredi dernier par un groupe d'hommes lourdement armés, sans doute des Amazama venus du Lesotho, réputés comme plus violents. Ce viol a choqué les Sud-Africains. Paul Changaze habite tout près du lieu du drame. Paul et ses voisins ont incendié un bâtiment où logeaient des Amazama.
3 months back, 2 people. We killed there by the Zamazamas. This year, February, the other girls were raped there on that tree. 3 of them from our community. The Basotos are killing other people, robbing. I was one of them. Then they started pointing a gun at me. We give them the phones, and then after that, they shot the guy. We called the police. Police came after 2 hours. Some of the police, they came and take bribery from the people who used to process they are called here. But at least now we see police in numbers because they rape their celebrities.
Il y aurait 30 000 orpailleurs clandestins en Afrique du Sud. Ils sont devenus incontrôlables selon Willem Els de l'Institut des études de sécurité à Pretoria, un ancien policier.
They became a power unto themselves. Whenever a transnational organized crime gangs move into, they have to feast of corruption. They corrupting mine security officials, they corrupting police officers in order to perpetrate their operations. And by in doing so, they actually gain protection from these officials that actually contribute to them becoming a power unto their own.
Même les armes utilisées par ces mineurs clandestins proviennent en partie de la police.
Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi. à la console Kelvin Fowler, rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.